Professeur Bernard, bonjour.
Bonjour.
Professeur Bernard, nous allons parler du cancer du côlon. Professeur Bernard, quelle est la fréquence de ce cancer à l'heure actuelle ?
Alors, c'est un cancer qui aujourd'hui est fréquent, il faut le savoir. Aussi bien chez l'homme que chez la femme, il y a une incidence d'à peu près 27 000 nouveaux cas par an en France. Ça reste aujourd'hui la première cause de décès par cancer tous sexes confondus. C'est-à-dire que c'est un cancer qui reste préoccupant, qui a par contre une particularité, on aura l'occasion de l'évoquer, il est accessible à un dépistage et surtout il est potentiellement curable par la chirurgie s'il est dépisté suffisamment tôt. Et donc, c'est dire que c'est un cancer qui doit être à la fois connu par les praticiens, qui vont avoir bien sûr un effet tout à fait bénéfique pour attirer l'attention de leurs patients sur la nécessité de se prêter à un éventuel dépistage, et surtout pour les patients potentiels que nous serons, étant entendu que l'incidence de ce cancer augmente avec l'espérance de vie et l'âge, bien sûr, des patients.
Professeur Bernard, les symptômes de cette pathologie, quels sont-ils ?
Alors, il faut savoir que ce sont souvent des signes qui sont très discrets. Il ne faut pas attendre des signes très spectaculaires. Les cancers du côlon ou du rectum qui sont révélés par un syndrome occlusif ou une complication qui pourrait être une perforation intestinale sont finalement assez peu nombreux. La plupart du temps, il s'agit d'une modification récente du transit intestinal, soit un épisode de constipation qui se prolonge, ou au contraire un épisode de diarrhée, ou voire de façon plus caractéristique, une alternance de diarrhée et de constipation, alors que le transit était tout à fait normal. Si ces signes se prolongent, c'est bien un signe d'alerte. Le deuxième signe qui doit être très très évocateur, c'est vraiment la présence de sang dans les selles sous la forme de rectorragie de faible abondance et qui doivent impérativement alerter le patient et n'être pas mis à tort sur le compte d'hémorroïdes, pathologie évidemment excessivement banale. Dans un petit nombre de cas, ce sont des douleurs abdominales qui peuvent attirer l'attention, mais c'est un signe qui reste très atypique. Le retentissement sur l'état général est tardif et c'est bien souvent le signe d'un cancer déjà évolué. Il faut absolument faire le diagnostic avant.
Professeur Bernard, à l'heure actuelle, est-ce que nous avons à notre disposition des moyens de confirmer rapidement ce diagnostic ?
Alors, une méthode est celle qui est aujourd'hui encore la plus performante, même s'il est un petit peu contraignante pour le patient, elle est quelquefois redoutée par le médecin qui va le prescrire, c'est la coloscopie. C'est un examen extrêmement fiable pour mettre en évidence directement la tumeur au niveau du côlon. Cet examen permet de localiser la lésion et surtout d'effectuer des prélèvements histologiques qui vont déjà fixer les premiers critères diagnostiques de certitude et fixer le pronostic si la tumeur est plus ou moins différenciée. Elle permet de dépister les éventuelles complications, surtout dans les cas où on est face à une tumeur sténosante qui peut évoluer rapidement vers une occlusion. Donc cet examen reste le pivot du diagnostic de confirmation. Il faut savoir que d'autres méthodes se développent. Il s'agit des techniques de coloscopie virtuelle au moyen de scanners adaptés à ce type d'examen. Il est certain que ces examens permettent de faire un diagnostic lésionnel. Aujourd'hui, bien sûr, ils ne peuvent répondre à la confirmation du diagnostic puisque l'endoscopie est le seul examen qui permette d'obtenir une confirmation histologique. Les marqueurs tumoraux biologiques sont une aide au diagnostic. Ils sont surtout importants pour suivre l'évolution après la thérapeutique, quand il existe une élévation initiale qui va ensuite pouvoir être suivie dans le temps après qu'un traitement chirurgical ait été proposé au patient.
Professeur Bernard, en ce qui concerne la chirurgie de ce cancer du côlon, est-ce que c'est un acte banal à l'heure actuelle ?
C'est une intervention qui est une résection d'une partie du côlon. Les interventions sont maintenant bien standardisées. Résection du côlon droit, du côlon transverse ou du côlon gauche selon le siège de la tumeur. Pour les cancers du rectum, les interventions sont un peu plus, je dirais, limitées ou au contraire étendues selon la position de la tumeur par rapport à la marge anale. Plus la tumeur est basse, moins il est facile de conserver le rectum et c'est là que l'on peut malheureusement infliger à un patient une mutilation je dirais, un petit peu plus importante, nécessitant une colostomie, donc avec une poche définitive. Mais dans la grande majorité des cas, on essaie de rétablir la continuité. Cela dépend bien sûr du niveau du siège de la tumeur, bien évidemment. Les complications sont devenues relativement rares. Ce sont des interventions que l'on peut réaliser chez le sujet âgé. Et là encore, les progrès de l'anesthésie facilitent une prise en charge chirurgicale, même chez des patients très âgés, ce qui là encore a amélioré les résultats globaux de la chirurgie. Alors, il faut savoir que ces résultats dépendent bien évidemment du stade d'extension de la tumeur. Quand la tumeur est limitée à la paroi et quand elle atteint, je dirais, la musculeuse du côlon sans l'envahir, on observe une survie à 5 ans qui est largement supérieure à 75-80% des cas. C'est dire que la chirurgie reste encore le pivot du traitement du cancer du côlon. La chimiothérapie en complément est préconisée quand la tumeur est plus évoluée et surtout quand elle envahit la musculeuse, la séreuse et les premiers relais ganglionnaires, où là le traitement chimiothérapique adjuvant donne de bons résultats et permet d'augmenter sensiblement la survie de ces patients à 5 ans. Néanmoins, dans les stades plus évolués, il n'y aura plus que la moitié des malades que nous suivrons après 5 ans. C'est dire l'importance du diagnostic précoce de ce cancer pour une prise en charge adaptée.
Qu'en est-il à l'heure actuelle de la prévention en France ?
Il y a deux niveaux. Je dirais le dépistage au niveau individuel et incontestablement, le médecin généraliste a son rôle à jouer dans ce dispositif. Il est très facile d'interroger un patient sur des symptômes même minimes et surtout de réaliser un simple toucher rectal qui permet déjà d'avoir accès, et tout le monde peut le faire, dans un cabinet à des tumeurs qui sont bas situées, qui sont perceptibles à l'examen clinique. Et ce geste aujourd'hui n'est probablement, alors qu'il est très simple, pas suffisamment réalisé. Le deuxième niveau, c'est le dépistage de masse du cancer colorectal. Ce cancer est fréquent, il augmente d'incidence, il est surtout précédé pendant de nombreuses années, probablement pendant une dizaine d'années, par une lésion précancéreuse qui est le polype colique, qui ne provoque en soi, surtout quand il est de petit volume, aucun symptôme, mais qui par contre va être accessible à des méthodes de dépistage. Depuis 2 ans, se déroule au niveau national une campagne de dépistage du cancer colorectal par recherche de sang dans les selles par des méthodes physico-chimiques très simples qui peuvent être réalisées au domicile du patient et qui sont organisées avec l'aide des pouvoirs publics et des médecins généralistes. Cette campagne de dépistage portera ses fruits, là encore, si plus de la moitié de la population ciblée, c'est-à-dire les sujets de sexe masculin ou féminin, après 50 ans et avant 75 ans, finalement réalise ce test, et cela permettra de sélectionner une population de sujets présentant de façon chronique de faibles pertes de sang dans les selles, et cette population-là sera éligible pour un examen de dépistage qui est aujourd'hui la coloscopie complète que l'on ne peut, en tout état de cause, infliger systématiquement à toute la population après 50 ans. Donc cette méthode a pour but d'orienter les sujets qui sont susceptibles d'être dépistés, et surtout, grâce à cette méthode, cela a été démontré dans plusieurs études auparavant, on a accès à des lésions soit qui ne sont pas encore cancéreuses, c'est-à-dire de gros polypes qui commencent déjà à saigner, soit des cancers qui sont accessibles à un traitement chirurgical et qui ne sont pas trop évolués. Et c'est tout l'intérêt donc de ce dépistage. Donc je crois qu'il faut absolument sensibiliser et les médecins généralistes et la population générale un dépistage donc de masse, et ce sont tous les enjeux, je dirais, de la prise en charge de ce cancer qui certes est accessible à un traitement quand il est limité, mais qui malheureusement reste encore pourvoyeur de nombreux décès quand le diagnostic est trop tardif.
Professeur Bernard, je vous remercie beaucoup.
Merci à vous.